chanson sur la route de la paix. Je regarde en plus nos erreurs passées. Croyons en l'avenir. Avançons de pas fermer résolu sur la route de la paix. Avançons ensemble sur la route de la paix. Partager ce n'est pas perdre ce qu'on a, mais accepter de recevoir de l'autre. Partager ce n'est pas.
Radio de la paix, il est 18h. Le journal de 18h, Mel Emmanuel.
18h à Odiéné dans le Kabadougoué en temps universel. Bonsoir à tous. En vue de s'imprégner de l'avancement des travaux de la voie de contournement d'Abidjan et du corridor de la ligne de bus rapid transfer Yopougon-Bégerville, le Premier ministre ivoirien Robert Begré-Mambé a effectué une visite terrain ce lundi 18 décembre 2023. L'Agence nationale du service universel des télécommunications, TIC, ANSUT, se saisit du dossier de la transformation numérique de l'administration ivoirienne. Elle a initié en ce sens une rencontre d'échange et de collaboration avec les directeurs des systèmes d'information des ministères et institutions de Côte d'Ivoire. Et en Guinée, le bilan des victimes de l'explosion du dépôt d'hydrocarbures de Conakry continue de grimper, passant officiellement de 11 à 13 morts et de 88 à 178 blessés. Vous êtes bien sur Radio de la Paix. Ce parcours de l'information nationale et internationale s'ouvre avec la visite des chantiers du projet de mobilité urbaine d'Abidjan et des infrastructures routières liées à la CAN par le Premier ministre Robert Begré-Mambé ce lundi 18 décembre. Au menu de cette visite, les travaux de dédoublement de la sortie est d'Abidjan et les voies d'accès au stade Alassane Ouattara d'Ebempe, les travaux de construction de la voie de contournement de la ville d'Abidjan Y4, le quatrième pont et le corridor BRT Yopougon-Bégerville. Plus de détails avec Jean-Mélène Bitté.
Sur l'état d'avancement de la Y4, Robert Begré-Mambé se veut rassurant.
Le tronçon entre la route de Bégerville et la route d'Alépé, tout le dispositif est en place. Il reste un seul ouvrage pour lequel nous sommes en train de faire les remblais d'accès. De la route de Bégerville jusqu'au stade de Bempe, avant la fin de l'année, on sera largement en possession de cette route pour la CAN.
Le tronçon Ebempe Autoroute du Nord lui connaît un retard. Il sera tout de même ouvert à la circulation. Robert Begré-Mambé.
Les travaux ont commencé pour les grands terrassements. Ce tronçon sera disponible pour la CAN en terre consolidée. Il n'y aura pas de bitume. Tous ceux qui viendront de l'intérieur du pays, au lieu de venir jusqu'à Yopougon, pourront à partir du PK24 rallier directement le stade de Bempe en toute sécurité.
Concernant le corridor du BRT et du quatrième pont dans la commune de Yopougon, Robert Begré-Mambé indique que ces infrastructures viendront régler les problèmes de mobilité.
Nous allons privilégier la circulation du trafic pour que les Ivoiriens voient les grandes améliorations que les grands travaux engagés par les chefs de l'État apportent au quotidien de ces populations. Les Ivoiriens verront la fluidité du trafic, c'est ce qui est visé. Et nous pensons qu'à la fin du mois de décembre, ces deux grandes voies de circulation seront offertes à la population. Comptez sur nous, la pression est là en permanence.
D'un coût total de 482,6 milliards de francs CFA, le BRT, long de 21 km avec 21 stations, impactera les communes de Yopougon, Atékoumbé, Adjamé, Plateau, Cocody et Bégerville.
Après la visite des infrastructures routières à Abidjan, nous partons dans le Bounkani où le PNUD a récemment évalué les capacités techniques et matérielles des cellules civilo-militaires de Teini, Bouna et Doropo. Cela en vue de leur redynamisation pour faciliter une meilleure collaboration entre les forces de défense et de sécurité et les communautés dans cette bande frontalière pour sa nouvelle initiative de prévention et de réponse à l'extrémisme violent dans le corridor atlantique. De Bouna, la correspondance de Jérôme Kouassi.
Alassane Camara, chargé des programmes en prévention des conflits et cohésion sociale au PNUD Côte d'Ivoire.
Savoir quel levier actionner pour les rendre le plus opérationnel possible et prévenir durablement l'extrémisme violent et renforcer la cohésion civilo-militaire dans les régions du nord de la Côte d'Ivoire.
Face à ce défi, il faut une franche collaboration entre les communautés et les FDS, rappelle Krako Kobilan-Jacques, président de la cellule civilo-militaire de Doropo.
Parce que pour qu'il soit fort, pour pouvoir bouter communautés hors de nos frontières. Ce phénomène lié au terrorisme, il va falloir que nous, en tant que communauté, nous puissions collaborer avec elles sans condition.
Les femmes vulnérables ont encore été appuyées en matériel roulant par le PNUD pour sortir les récoltes des champs et fixer à domicile leurs enfants cibles le recrutement des groupes armés. Lantan Abiba de la CCM de TNI.
Pour ne pas avoir des problèmes avec les propriétaires des bœufs, nous pouvons soutenir nos enfants pour ne pas qu'ils rejoignent l'extrémisme violent.
Toutefois, l'insuffisance de moyens financiers et matériels limite les bons résultats sur le terrain, plaide Sawadogo Souleymane, secrétaire général du CCM de TNI.
Pour défaut de financement, il n'y a pas de mobilité, il n'y a pas d'équipement, on n'a même pas de local du CCM, donc ça fait que nous ne sommes pas bien connus.
Cette opération vise à redynamiser les cellules civilo-militaires par le PNUD pour sa nouvelle initiative qui consiste à prévenir et répondre à l'extrémisme violent dans le corridor de l'Atlantique avec la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Togo et le Bénin. Jérôme Kwasi Kru, Bouna, Radio de la Paix.
Du nord-est au nord-ouest de la Côte d'Ivoire, à Odienné, le préfet de région et de département, Famille Kwame René, a procédé mardi dernier au lancement de la 9e édition de l'opération Épervier, qui consiste à renforcer l'indice de sécurité le long des frontières, ce, en présence de toutes les unités des forces de défense et de sécurité. Dans le district autonome du Dinguélé pour Radio de la Paix, Bakary Touré Labasse.
Lors du lancement de cette 9e édition de l'opération Épervier, le préfet de région, préfet d'Odienné, a lancé ce vœu pieux à l'endroit de la Grande Muette. Famille Kwame René.
Je souhaite qu'à la fin de cette opération, nous fassions un bilan. Qu'on sache que le taux de criminalité, le taux d'agression, de toutes sortes de trafic est fortement diminué.
Aux représentants de l'État d'évoquer ce tout aspect.
Également, que nos frontières, que surveillent avec beaucoup de courage les fascis, soient également un lieu de sécurité où les populations peuvent vaquer quotidiennement et dans la paix à leurs activités.
Pour sa part, Tano Narcisse, l'adjoint au préfet de police de Dienné, a, au nom des forces de défense et de sécurité, exprimé ses différentes certitudes.
Nous allons patrouiller à travers la ville. Nous sommes à l'orée des fêtes, comme M. le préfet l'a dit. Il faut prendre de bien meilleures dispositions pour que les gens dorment en paix, en toute quiétude. Par des patrouilles, on peut avoir regardé qui est bon. Ceux qui sont recherchés là, on les met à disposition de M. le procureur.
On prépare à cet événement toutes les unités présentes dans le district autonome de Dinguélé. Bakary Touré Labasse, Odienné, Radio de la Paix.
Nous continuons notre périple de l'information nationale à Dembokro. C'est dans cette ville que du 14 au 16 décembre dernier s'est tenue la deuxième session nationale parlementaire de l'année 2023 du Parlement des jeunes de Côte d'Ivoire. Elle portait sur le thème « L'engagement civique de la jeunesse dans le processus de la bonne gouvernance et le développement de la Côte d'Ivoire ». Les réflexions ont porté sur les thématiques de la bonne gouvernance, de la migration irrégulière, de la violence en période électorale et de la consommation de la drogue en milieu scolaire et universitaire. À Dembokro pour Radio de la Paix, Émile Yao.
Sur les enjeux de cette rencontre de Dembokro, le président national des jeunes parlementaires de Côte d'Ivoire, Vaiao Josué, indique.
Les objectifs généraux de cette session parlementaire sont entre autres de donner les rudiments nécessaires afin de parvenir à l'éradication du phénomène de la consommation de la drogue en milieu scolaire, d'amener toute la jeunesse à se référer aux valeurs et aux principes démocratiques, d'amener les jeunes parlementaires à connaître mieux le rôle et l'utilité de la haute autorité pour la bonne gouvernance, amener les jeunes à sensibiliser sur les fraudes de la migration irrégulière.
Quatre thématiques, à savoir la bonne gouvernance, la migration irrégulière, la violence en période électorale et la consommation de la drogue à l'école, objet de communication, sont autant de sujets abordés au cours de ces assises. Va Yao Josué.
Les recommandations les plus pertinentes seront consignées dans ce qu'on appellera le livre blanc. Et ce livre blanc sera remis aux autorités compétentes.
Représentant le président de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, au parrain de la session, Doja Maximin salue l'initiative des jeunes.
Ils ont choisi une thématique très importante et d'actualité et le président de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance voudrait les exhorter à aller dans ce sens afin que notre pays puisse regorger donc de citoyens honnêtes intègres pour son développement.
Les activités de sensibilisation de masse se poursuivront sur le terrain, a indiqué le président du Parlement des jeunes de Côte d'Ivoire. Émile Yao, depuis Dembokro, Radio de la Paix.
Vie des institutions à présent dans ce journal. Le projet de loi de finances rectificative portant budget de l'État pour l'année 2023 a été adopté ce samedi 16 décembre 2023 à Yamoussoukro à l'unanimité des sénateurs membres de la commission des affaires économiques et financières. Le ministre des Finances et du Budget, Adama Koulibaly, est revenu au terme des travaux sur les éléments ayant entraîné les changements dans ce budget.
C'est un exercice obligatoire pour le gouvernement lorsqu'il y a un bouleversement dans l'équilibre budgétaire de venir présenter au Parlement les changements qui ont été apportés. L'année 2023 a été une année un peu particulière. La Côte d'Ivoire a bénéficié d'un programme économique et financier avec le Fonds monétaire international, avec des ressources conséquentes qui accompagnent donc ce programme économique, 603 milliards de francs CFA pour l'année. Nous avons également bénéficié d'appui budgétaire venant de la Banque mondiale, du Fonds monétaire international, mais aussi de la BADS et de l'Agence française de développement. Ce sont des éléments qui viennent donc conforter les recettes de l'État d'une manière générale. Mais parallèlement à ça, nous avons eu à faire face à des dépenses d'investissement à hauteur de près de 500 milliards de francs CFA pour investir dans des secteurs qui peuvent améliorer la qualité de vie de nos populations. Nous avons eu également à faire des dépenses de soutien à nos cotonculteurs à hauteur de 25 milliards de francs CFA. Nous avons apporté également un soutien à notre compagnie nationale Air Côte d'Ivoire à hauteur de 20 milliards de francs CFA. Nous avons poursuivi également les actions visant à atténuer l'impact de la guerre en Ukraine sur nos populations. Nous avons soutenu les meuniers pour faire en sorte que le prix du blé soit amorti de manière à ce que le prix du pain ne puisse pas augmenter. Voilà tout ce qui a entraîné en fait les changements dans le budget.
Que le nouvel équilibre du budget 2023 est arrêté en ressources et en dépenses à 12 508,7 milliards de francs CFA contre 11 694,4 milliards de francs CFA prévus initialement, soit une hausse globale nette de 814,4 milliards de francs CFA. Et les propos du ministre Adama Koulibaly ont été recueillis par Émile Yao. Intéressons-nous aux technologies de l'information et de la communication. L'Agence nationale du service universel des télécommunications TIC ANSUT a initié le 12 décembre dernier une session réunissant les directeurs des systèmes d'information des ministères et institutions de Côte d'Ivoire ainsi que les acteurs clés du secteur numérique ivoirien. Cette rencontre d'échange et de collaboration est intervenue dans le cadre de la mission de l'ANSUT qui est de contribuer de manière significative à la transformation numérique de l'administration ivoirienne sous l'égide du ministère de tutelle. Sous l'égide du ministère de tutelle, Mata Touré.
Face aux défis qui ponctuent le paysage numérique en Côte d'Ivoire, ANSUT se présente comme un rempart pour transformer ces défis en opportunités d'innovation et de créativité. Jules-Thierry Beugré en est le directeur général.
L'Agence nationale du service universel des télécommunications se positionne comme le fer de lance de la transformation digitale. Elle a le devoir d'insuffler une vision d'inclusion, d'innovation et de prospérité. La nécessité d'apporter une réponse stratégique et agile aux enjeux tels que la connectivité, la sécurité numérique, l'évolution rapide des technologies et le développement des compétences numériques est également une priorité constante.
Le lancement de cette édition ANSUT Connect s'est fait en présence de Ekissi Narcisse, directeur de cabinet du ministère de Transition numérique et de la digitalisation.
La cérémonie de ce jour marque un moment historique dans notre ambition de faire de la Côte d'Ivoire un hub numérique. Elle symbolise notre détermination à fournir une approche concertée pour amorcer la dynamique de la transformation numérique souhaitée par le chef de l'État.
Depuis décembre 2022, ANSUT a ouvert un nouveau chapitre de son histoire avec des innovations majeures. Il s'agit d'une nouvelle vision et d'un nouveau plan stratégique en parfaite cohérence avec les 7 piliers de la stratégie nationale numérique dénommée ANSUT Connect 2023-2025.
À l'ouest du pays, la municipalité de Mans, avec à sa tête son premier magistrat, Aboubakar Sidiki Fofana, et Albert Flendé, ministre-gouverneur du district autonome des montagnes, viennent d'être primés comme meilleurs artisans de paix, de cohésion sociale, gage de développement à l'initiative du Parlement africain de la société civile. Témoin pour Radio de la Paix, Stéphane Adams, notre correspondant dans la région du Tonkouï.
Le président du Parlement africain de la société civile, qui c'est Jean-Claude Dro, revient sur la raison qui a motivé cette action à l'endroit des élus de Mans.
Depuis près de 14 ans, nous décernons un prix chaque année. Pour ce qui concerne le maire de Mans, nous avions bien évidemment relevé quelques actions qui pour nous ont retenu l'attention du comité du prix. Il s'agit principalement des actions de lutte contre la pauvreté, la construction des écoles, des dispensaires, le marché qui préoccupe tant les populations a été renouvelé. L'hôtel communal qui a été construit aujourd'hui devient comme un modèle. Auprès de cela, nous constatons que le ministre gouverneur ainsi que le roi sont des personnes qui poussent et aident et facilitent le travail du maire dans la commune de Mans. La distinction sont des discours d'honneur pour encourager le travail qu'ils font auprès du maire.
Les lauréats à la réception des médailles d'honneur. Aboubacar Sidiki Fofana, maire de Mans.
Le mérite, c'est parce que j'ai avec moi autant de personnes qui sont engagées pour la ville de Mans et qu'ensemble nous arrivons à faire tout ce que vous avez vu et qui a attiré le regard du monde entier sur nous dans cette petite commune à l'ouest de la Côte d'Ivoire, dans un grand district de la Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs les conseillers, de tout bord, voilà vos prix. Ce n'est pas le prix du maire. La paix, la quiétude, amai dans tout le ton cuir.
Albert Flindé, ministre gouverneur du district autonome des montagnes.
Je parle sous le contrôle de nos parents avec cette médaille des prix d'honneur 2023 du Parlement. Je voudrais vraiment vous dire merci, chers frères, chers fils, vous inviter à la solidarité.
Une visite terrain des infrastructures réalisées a mis fin à la cérémonie. Stéphane Adams, Mans, Radio de la Paix.
À nouveau dans le centre de la Côte d'Ivoire, 100 acteurs de la filière aquacole des régions du Bélier, du Bouéké et du district autonome de Yamoussoukro ont vu leur capacité renforcée récemment à Bouéké. Cette formation initiée dans le cadre du projet stratégique de transformation de l'aquaculture en Côte d'Ivoire avait pour objectif d'outiller les apprenants sur les métiers en amont de la production afin de soutenir la chaîne de valeur aquacole. Le reportage de Joseph Assalé, notre correspondant dans le Bouéké.
Des modules spécifiques ont été dispensés aux apprenants issus de différents corps de métier de la chaîne de valeur de l'aquaculture. Docteur Niamia Kadio Henri Joël, chargé d'études au programme stratégique de transformation de l'aquaculture en Côte d'Ivoire, en abrégé PSTACI.
Au niveau des pisciculteurs, la maîtrise de l'itinéraire technique, la gestion de l'eau dans ce contexte de changement climatique sur les techniques de nourrissage des différents poissons. Au niveau des marieuses, nous initions de formation de comptabilité simplifiée, de technique, de traitement et de conservation post-pêche. Au niveau des aménagistes, l'étude des différents bas-fonds, comment faire la prospection des sites, comment arriver à dessiner un plan d'aménagement pour un promoteur. Quant aux monteurs de filets, l'information apportée sur le découpage des filets, l'assemblage des différents éléments du filet.
Dans leur ensemble, les apprenants se disent désormais outillés.
On est Pilar Diop Ismaël, le secrétaire général de la chute coopérative de la pisciculture du centre Bouaké. Cette formation va vraiment nous permettre d'être efficace.
Ici Pauline, la présidente des marieuses de Bouaké. En tout cas, je suis très satisfaite. Aujourd'hui, j'ai appris comment gérer mon agent, comment recevoir mes clients, tout. Ça va me permettre d'être dynamique, efficace.
Retenons que le programme stratégique de transformation de l'aquaculture en Côte d'Ivoire va permettre à terme de stimuler l'investissement dans le secteur aquacole et aussi développer la chaîne de valeur de la filière. Joseph Assalé, Bouaké, Radio de la Paix.
Hors de la Côte d'Ivoire, le bilan des victimes de l'incendie d'un dépôt d'hydrocarbures ce lundi à Conakry continue de grimper. Au moins 13 morts et 178 blessés. Le sinistre est survenu aux environs de 0 heure locale au principal dépôt d'hydrocarbures de la société guinéenne de pétrole à Kaloum, dans le quartier administratif et des affaires de Conakry, la capitale guinéenne. La prise en charge des victimes a permis à 89 blessés de regagner leur famille. Plus tôt, le directeur technique opérationnel de la protection civile, Jean Traoré, a fait état d'un bilan de 11 morts et 88 blessés graves lors d'une réunion avec le ministre des Affaires étrangères et des ambassadeurs. Nous revenons en Côte d'Ivoire avec une note de football. À moins d'un mois de la Coupe d'Afrique des Nations en terre ivoirienne, prévue du 13 janvier au 11 février 2024, la Confédération africaine de football, CAF, a annoncé le jeudi 14 décembre dernier, dans un communiqué, l'ouverture de la vente des billets au guichet. Hormis la vente en ligne qui a déjà permis l'écoulement de plus de 30 000 tickets, celle-ci permettra aux populations vivant sur le territoire national de les acquérir aisément. Linda Ballier.
En effet, une dizaine de villes et communes ont été choisies par la CAF pour la commercialisation de ces billets. Et les villes et communes choisies sont la capitale politique Yamoussoukro avec 5 points de vente, Boaké en a 7, à Korogo, la cité du Poro. Les amoureux du football pourront s'offrir les tickets dans 5 lieux de vente. Idem pour San Pedro, la cité balnéaire du sud-ouest ivoirien. Une autre ville balnéaire qui n'a pas été oubliée, c'est Grand Bassam, avec un seul lieu de vente du précieux sésame. Pour cette opération de vente, le district d'Abidjan se taille la part de lion. Tenez par exemple à Cocody. Les habitants de cette commune pourront avoir ces billets dans 6 points de vente. Au plateau, ce sont 4 points de vente qui ont été choisis. Benjerville et Agnama ont 2 points de vente chacun. Et les populations de Yopougon pourront se procurer ces billets dans 6 points de vente répertoriés. Quant à Songon, la commune voisine, c'est 1 point de vente qui leur est dévolu. Idem à Atekoubé. À Adjamé, par contre, ce sont 3 points de vente qui sont prévus, pareil qu'à Abobo, où 3 points de vente seront dédiés aux amoureux du ballon rond. Côté prix des tickets, pour que chaque match draine du monde, la CAF et le COCAN ont décidé qu'il faudra débourser 5 000 francs CFA pour la catégorie 3, 10 000 francs CFA pour la catégorie 2 et 15 000 francs CFA pour la catégorie 1. Rendez-vous est donc pris pour la célébration de la plus grande messe du football africain, la CAN de l'hospitalité, dès le samedi 13 janvier 2024 au pays de Nanamboigny.
Merci Linda Balier, voilà qui nous conduit au rappel des titres de ce journal. En vue de s'imprégner de l'avancement des travaux de la voie de contournement d'Abidjan et du corridor de la ligne de bus Rapid Transfer Yopougon-Benjerville, le Premier ministre ivoirien Robert Begré-Mambé a effectué une visite terrain ce lundi 18 décembre 2023. Et en Guinée, le bilan des victimes de l'explosion du dépôt d'hydrocarbures de Conakry continue de grimper, passant officiellement de 11 à 13 morts et de 88 à 178 blessés. J'ai pris beaucoup de plaisir à vous présenter le journal de 18h. Maintenant, je vous laisse en compagnie de Jean-Claude Comé pour le magazine Economia. Bonsoir chez vous.